Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah et...
Fulgence Blas.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques oblige, hein, alors on va parler... moi je vais parler de chocolat, d'œufs de Pâques dans plusieurs pays, et toi ?
Miam miam, miam miam. Moi je vais parler des sirops d'érable purs.
Allez.
Avec Mercedes et Linguiste Lucier... de leur cabane à sucre familiale ancestrale.
Ah bah
les détails un peu plus tard.
Intéressant. Alors, on va débuter en chanson, bien sûr, avec Marc-Antoine Larche qui nous chante « Chocolat ». Ah, tiens.
Mon cœur est un chocolat. Soute dans soute doigt, petit bec sucré, viens te régaler. Tu n'as qu'à déchirer le papier argenté, plaisir instantané, croqué, sucé, avalé, mon cœur de cacao. Enrobage parfait, en fondant sur ta peau, fait chocolat au lait. Rage de gourmandise, amande et friandise, seconde minute exquise, un seul espoir.
Alors voilà, on vient d'entendre donc Marc-Antoine Larche qui nous chantait Chocolat. Pourquoi Chocolat ? Excusez-moi, j'ai la voix un peu rauque aujourd'hui. C'est parce que je suis une grosse gourmande. Mais alors, j'aime ça le chocolat, moi vraiment, beaucoup, beaucoup. Et toi, Fulgence ?
Oui, j'adore, mais je...
Mais tu fais attention, moi je ne sais pas faire attention. Un carré devient vite une tablette chez moi.
Je tempère. Parce que quand... Moi, je n'achète même plus de cacahuètes chez moi pour mettre sur ma table...
D'accord.
Voilà, non, parce que quand je commence, j'arrête plus.
C'est comme je vais te raconter l'histoire du chocolat et tu vas voir, tu vas avoir envie d'en racheter. Et du chocolat à boire aussi. Parce que ce chocolat qui me donne tant de plaisir, savez-vous qu'il remonte à 4000 ans. C'est en Amérique latine que les premiers cacaotiers ont été trouvés. Au 15e siècle, imagine-toi, Fulgence, que les Aztèques utilisaient des fèves de cacao comme monnaie. Et ils croyaient même... que le chocolat était un cadeau d'une de leurs divinités, je vais dire le nom comme il faut, Quetzalcoatl, le serpent à plumes. On en a plus entendu parler peut-être du serpent à plumes.
J'espère que tu as bien prononcé parce que je... pas me demander si.
On dit toujours qu'on veut y aller à la recherche du serpent à plumes.
Dis-moi encore, Arlette.
Alors, c'est la civilisation Olmec. C'est une des plus anciennes civilisations d'Amérique latine qui aurait été la première à transformer le cacao en chocolat. Alors, imagine-toi qu'ils en buvaient comme rafraîchissement, comme aphrodisiaque, et même pour se préparer à faire la guerre. Étonnant, non ?
Ça donnait de la force ou bien de l'énergie
Peut-être bien, tu sais, le sucre, ça donne de... Enfin, quand... si c'était sucré à ce moment-là, parce que je crois que ça ne l'était pas encore. La légende raconte que c'est l'explorateur espagnol Hernando Cortés qui en a ramené dans son pays natal en 1528. Au cours d'une expédition, alors que lui était parti en quête d'or et de richesses, mais tel qu'on se l'imagine, des diamants, des rubis, des...
Comme toujours.
Voilà, toujours.
Oui.
Eh bien... Il a été pris par les Aztèques pour leur dieu, le fameux Quetzalcoatl. Ils ont cru que c'était lui et il s'est vu offrir une plantation de cacaotiers. Et il a rapporté ses précieuses fèves en Espagne et c'est à ce moment-là que la boisson chocolat est devenue extrêmement populaire en Espagne. Même, tiens-toi bien, même les moines catholiques en boivent pour faciliter leurs pratiques religieuses. Et les Espagnols le gardent jalousement, il faudra presque un siècle avant que le cacao atteigne, le chocolat atteigne la France et se répande dans le reste de l'Europe. En 1615, pour continuer dans l'histoire avec un grand H, Louis XIII épouse Anne d'Autriche qui est la fille du roi d'Espagne Philippe III. Et pour célébrer cette union, celle-ci offre des échantillons de chocolat à la cour de France. Mais c'est plus tard, c'est Louis XIV qui va populariser cette boisson à la cour. Là, ils en boivent tous et tout le temps. C'est bien, c'est chic. Il n'y a que les riches qui peuvent en boire.
Heureusement que ça ne saoule pas.
Heureusement, oui. Quoique, on peut mettre d'autres choses dedans. Mais c'est venu après. Ouais. En vue de ce succès, plusieurs pays mettent sur pied leurs propres plantations autour de l'Équateur. On la produit encore de façon artisanale, mais la révolution industrielle va changer les choses. Vois-tu ? En 1828, l'invention de la presse à chocolat transforme la préparation. Alors, c'est un appareil qui peut presser les fèves de cacao à partir des fèves rôties en ne laissant qu'une fine poudre. Cette poudre, elle est mélangée à des liquides, elle est mise dans un moule, elle se solidifie, elle prend la forme d'une barre de chocolat comestible et ça y est, le chocolat est entré dans l'ère moderne. Alors après, je ne sais si c'est histoire véridique ou pas, mais il se raconte que, en tout cas dans mes recherches c'était ça, que ce sont les Espagnols qui ont trouvé pour pas laisser le goût du chocolat qui cru est un peu amer quand on le prend comme ça, ils y ont mélangé du sucre et du miel et c'est ce qui a fait la boisson que l'on connaît aujourd'hui. En 1847, la première tablette de chocolat est créée par Rodolphe Lindt. C'est un mot qui me dit quelque chose. Le chocolat Lindt. Oui, il est toujours aujourd'hui. Brevet c'est, déposé.
C'est pas un nom allemand, ça. Robert Lindt.
Lindt, d'accord. Rodolphe. C'est un brevet déposé. Je ne me battrai pas avec toi sur l'Allemagne, ça
non,
c'est
non,
sûr.
Non.
C'était un brevet qui a été déposé en 1879. Imagine.
Ça dit que les Espagnols, ils ont dormi, quoi.
Ils n'ont pas dormi, ils l'ont gardé pour eux jusqu'à ce qu'une reine de France, enfin une fille d'Espagne devenue reine de France amène le chocolat. Attends. Et c'est cette première tablette, donc en 1879, ça c'est le chocolat qui est créé, mais c'est du chocolat fondant par un procédé qui s'appelle un procédé de conchage.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ah, je suis contente que tu ne le saches pas, parce que je ne savais pas non plus, j'ai recherché. C'est, c'est la température que l'on met à varier. Par exemple, la température qui varie de 49 degrés pour le chocolat au lait, 85 degrés pour arriver à ce qu'on connaît comme le chocolat blanc.
Type de température, voilà.
Tu vois ?
Ouais, ok.
Et le chocolat noir...
C'est le dosage, on peut dire, quoi.
C'est ça, qui invente le chocolat. Et le chocolat noir, qui est le chocolat des puristes, de ceux qui disent aimer vraiment le chocolat, disent qu'il n'y a rien de mieux que le chocolat noir.
Il est pur.
Que c'est le vrai chocolat.
Oui.
Bon. Eh bien, il a été inventé en 1821 par l'anglais Cadbury. Et c'est lui qui a produit le premier chocolat noir à craquer. Alors, est-ce que mon histoire te donne envie d'acheter du chocolat?
Mais j'en ai encore. J'ai des barrettes de chocolat chez moi. Mais je fais comme si je ne les vois pas. C'est comme les amuse-gueules en général.
Oui, mais...
une fois que je commence, j'arrête plus.
Tu sais ce que c'est, les gens qui souffrent d'insomnie, qui arrivent à se lever la nuit et qui ne savent plus ce qu'ils font. Eh bien, je suis comme ça. Le chocolat, je n'ai pas besoin de le voir, je le sens, je le retrouve.
Je fais comme si je ne vois pas mes barrettes de chocolat qui sont là. Ils sont bien emballés, tout ça, je les vois. Hein. Mais de temps en temps, je vais ouvrir un peu. De temps en temps, j'en ai reçu à Noël, là, ils sont encore dans leur paquet d'origine. Je n'ai pas encore touché.
Je trouve ça merveilleux.
Oh là là.
Moi, je
c'est
je
un déco, chez moi,
des,
c'est un déco. Voilà.
Des chocolats de Pâques.
C'est une décoration.
Je vais vous en parler après, puis je vais vous parler un peu de tout ce qui se fait dans plusieurs pays différents pour les fêtes de Pâques. Mais moi, je me souviens qu'étant enfant, je courais après les chocolats, je faisais comme tout le monde, que maman avait caché un petit peu de partout. Eh bien... J'étais capable, c'est pas une référence, de tomber malade tellement j'en aurais mangé. J'ai gardé pour le lendemain,
Mais je sais
après, j'étais écœurée du chocolat pendant 3 mois.
Je sais que mes sœurs mangeaient plus que moi, ça c'est clair. Plus que nous autres.
Est-ce que tu voudrais sous-entendre que les filles sont plus gourmandes, Fulgence? Fais très attention à ce que tu vas dire, on risque d'avoir beaucoup d'appels.
Non, elles apprécient beaucoup plus. Non, moi j'apprécie autrement. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais quand je commence, je n'arrête pas non plus. Hein. C'est ça mon... Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une gourmandise chocolatière? Je ne sais pas. Je gourmandise chocolatière, je ne sais pas.
C'est-à-dire que si on veut du chocolat... Les filles, puisqu'il nous a dit que c'était nous qui étions les plus gourmandes.
Non, j'ai pas dit
rendez-vous
ça.
Chez Fulgence dans ses placards, puisque lui, il les cache. Moi, je vais l'aider à pas en manger du tout. Voilà.
Sinon, j'aime bien comme toi. J'aime bien le chocolat. Mais je fais attention. Parce que quand je commence, là, il faut que je vide mon paquet, là, tout de suite.
Je vais vous dire un secret, Fulgence. Fais attention, non pas au chocolat, mais à sa ligne.
Oh là là.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon histoire de chocolat. Pour ceux qui la connaissaient déjà ou pour ceux qui ne la connaissaient pas encore.
Moi j'ai adoré.
C'était un petit moment court. Mais là on va partir avec une autre chanson de chocolat. Et ensuite,
c'est de qui, ça?
On va parler de Pâques. On va partir avec Thomas Fersen qui va nous chanter Chocolat. Et ensuite on parle de Pâques un peu dans tous les pays. À tout de suite.
Cigarette sur l'oreille et mes grosses lunettes de soleil leur ont mis la puce à l'oreille alors qu'ils baillaient aux corneilles. Mes chaussures à museau de rat ont chatouillé leur odorat et comme ils n'avaient rien à fiche, ils ont détaché leur caniche et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat, il a mangé mes granolas. Puis ils m'ont léché les doigts. Ils ont goûté la farine, ils ont goûté l'aspirine, ils ont goûté le savon. Mais le savon c'est pas bon. Oh non, y a des perdreaux dans mes chaussettes, des poulets dans mon bermuda, dans mon masque et dans mon tuba, et sur mon gros radio cassette. Ils ont écouté la musique qui provenait de Jamaïque. Ils ont écouté du pop tout en fouillant ma garde-robe. Et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat, il a mangé mes granolas. Et puis il m'a léché les doigts. Ils ont goûté la farine, ils ont goûté l'aspirine, ils ont goûté le savon. Mais le savon c'est pas bon. Oh non. Mes calcifs, ils sont pourtant inoffensifs. Ils ont même l'air un peu gênés. Ils pensaient pas s'oxygéner. Ma valise elle est décousue. Elle tire une langue de tissu. Elle a un gros derrière carré. Mais elle n'a rien à déclarer. Et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat.
Il a mangé ma confiture, puis il m'a léché la figure. Je suis entouré de flics qui cherchent la Jamaïque. La Jamaïque, elle est plus là, elle était dans le chocolat. Oh oui.
Alors maintenant qu'on a bien parlé de l'histoire du chocolat, et j'espère vous avoir fait envie, parce que moi je me suis fait envie toute seule, on va parler
mais
un peu...
avant de continuer, avant de parler de Pâques, allez, je vais te dire une chose, mais je bois du chocolat chaud ou froid tous les matins.
Je le sais.
Voilà, c'est différent. Parce que
des... des fois je dis, Fulgen, je peux te parler? Ah non, je suis en train de boire mon chocolat, après. Bon, sur ce petit aparté, un petit peu d'histoire de Pâques.
Ouais.
Alors est-ce que vous savez que dans l'Antiquité... il y avait une tradition païenne qui consistait à célébrer les beaux jours, les petites plantes qui sortent de terre et l'arrivée du printemps. On fêtait chaque année l'équinoxe du printemps en rendant hommage à une déesse de la fertilité dont le nom changeait suivant les régions. C'était Ishtar en Babylonie, Astaré chez les Phéniciens et Ostre ou Ostara pour les Anglo-Saxons. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Parce que le nom anglais pour Pâques, Easter, ça provient directement du nom de cette déesse païenne de la fertilité qu'on retrouve dans toutes les traditions du monde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fêtes à consonance religieuse, par exemple Noël, Halloween, la Saint-Jean, ou l'implantation de l'école, de l'Église catholique à conserver en lui attribuant de nouveaux symboles. Mais en fait, ces symboles, ça vient d'histoires comme celle que je vous ai racontée tout à l'heure sur Pâques. Voilà. Après, l'Église catholique l'a pris en lui donnant un autre nom. Ainsi, les légendes du lapin, des poules de Pâques, de la chasse aux œufs, du carême, et sont des traditions qui, à la base, étaient païennes.
Oui, oui. Tu sais, Arlette, tu sais, le nom en allemand, c'est à peu près comme en anglais, c'est Austin.
On va y venir, je ne t'oublie pas, Fulgence. Attendons. Tu crois que j'allais te rater ça? Alors d'abord en France. Commençons par la France. On raconte que toutes les cloches du pays se taisent entre le jeudi et le samedi saint parce qu'elles partent à Rome et qu'elles vont se faire bénir. Et quand elles reviennent, bien sûr, elles laissent tomber des œufs, des poules, des lapins, des cloches en chocolat dans les prés et les jardins pour les enfants sages. Autant vous dire que j'ai été une enfant sage toute ma vie parce que j'ai tout le temps eu des œufs en chocolat. Et bien sûr, on trouve l'agneau rôti et les légumes du jardin pour ceux qui en ont un jardin, mais sinon, on va dans des marchés de région.
Oui, oui.
Et maintenant, on va arriver à l'Allemagne. Oh, c'est un pays que Fulgence ne connaît pas.
Oui.
Alors,
je suis jamais allé là.
Les enfants décorent un arbre de Pâques. C'est un cep de vigne ou un arbre sans feuilles auquel on suspend des œufs décorés. Ils fabriquent aussi des petits nids de paille et puis ils les cachent dans la maison en espérant que le lapin ou le lièvre de Pâques viendra le remplir d'œufs, bien sûr, pendant la nuit. C'est normal. Alors, selon les régions, le lapin est parfois remplacé par une poule, par un coq, ou même, j'ai lu, par un renard. Tiens, je te trouvais ça surprenant.
Oui, c'est ce qui fait que quand je parlais de ça hier avec Maurice, je lui parlais de lapin. Il dit, mais pourquoi lapin? Je lui dis, bon, de toute façon, je vais lui en parler aujourd'hui.
En parler, voilà, à cause de ça. Et, ouais. Il mange aussi, si c'est bien ce que j'ai lu, Fulgence, tu vas me le confirmer, des plats verts le jeudi, genre une soupe aux épinards, aux poireaux, à la sauce à l'oseille, et du poisson le vendredi, et du gigot d'agneau le samedi.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Tu me le confirmes?
Oh, ouais. C'est bien traditionnel, ça.
Juste une question. Tu as cru combien de temps que c'était le petit lapin qui venait mettre les œufs dans la...
Je ne sais plus.
Parce que si tu y crois encore, moi, je ne ferais pas l'équilibriste sur ta fenêtre pour t'envoyer des œufs en chocolat.
Je n'y crois plus. Je ne crois plus à mon âge. Bon.
Alors, maintenant, après l'Allemagne, eh bien, partons au Mexique. Au Mexique, eh bien, les rues sont décorées de guirlandes au moins 2 semaines avant la fête. Ah, ça, les Mexicains, ils connaissent là, la fête.
Deux semaines avant.
Deux semaines avant. la veille de Pâques.
Ça veut dire actuellement comme ça, ils sont déjà là-dedans, quoi.
Ils sont déjà là-dedans, comme tu dis si bien. Ouais. La veille de Pâques, tout le monde descend dans les rues. Ensuite, on brûle des images qui représentent Judas, où on détruit des pinatas à son effigie pour se régaler de toutes les sucreries qui vont en tomber. Et tout cela pour le punir d'avoir trahi le Christ. En ce qui concerne la nourriture, eh bien, le poisson et les fruits de mer sont à l'honneur durant toute la période du carême, ainsi que pendant la fin de semaine de célébration. Ben, tu sais quoi ? Comme j'adore les fruits de mer, prochain voyage au Mexique, je m'arrange pour que ce soit à Pâques.
Tu vas prendre 2 semaines de vacances.
Voilà. Pour les bonbons, pour les bonbons, pour les chocolats,
vous
et bien sûr,
avec les Mexicains.
Pour les fruits de mer. Ah, bah ça, c'est une autre histoire.
C'est une
Ensuite,
autre histoire, ça.
Nous revenons par l'Angleterre. Tiens. Eh bien, en Angleterre, les œufs ne sont pas apportés par un animal ou des cloches, mais ce sont plutôt les enfants qui font du porte-à-porte, un peu comme pour Halloween, afin de collecter les œufs en chocolat et autres sucreries. Le repas traditionnel consiste en un rôti d'agneau avec une sauce à la menthe. Ah, je l'ai goûté.
Rôti d'agneau.
Ah, mon palais, ça rappelle encore.
Ouais.
Des pommes de terre et des petits pois. Et pour dessert, on se régale de hot cross buns, des petites brioches sucrées aux fruits confits et décorées d'une croix. Ça, c'est bon.
Ça, doit être...
ça ouais. C'est bon. Enfin, moi, les desserts, ça a toujours été mes copains. Un petit peu moins maintenant, mais ça a toujours été mes copains.
Tu prends de moins en moins du dessert ?
Et je fais attention.
Ah bon, d'accord.
C'est parce que je suis obligée, un petit peu.
Ok.
Je m'y oblige. Je fais comme toi avec le chocolat, mais le chocolat ne fait pas partie de... Parce qu'il est, bon, le chocolat. Il fait du bien. Dans les pays, parlons un petit peu des pays scandinaves. Alors, les pays scandinaves, comme la Norvège, la Suède, la Finlande, propose un très grand nombre de coutumes culinaires et rituels associés au temps de Pâques. Et la plupart qui viennent d'anciennes pratiques païennes, pour n'en citer que quelques-unes. Le soleil danserait le matin de Pâques, et c'est pour cette raison que bien des gens se lèvent très tôt et se déplacent vers un point en altitude pour assister à la gigue de l'astre céleste.
C'est ça qu'ils appellent la danse du soleil.
Mais je veux la voir.
Je veux voir le soleil.
Autre
le soleil
voyage prévu en Norvège, ou en Suède,
oui,
ou en Finlande.
Les prochaines vacances, il faut que je les prenne en Pâques là, pour pouvoir aller. Je connais ces pays scandinaves, là, mais je n'ai jamais fêté Pâques là-bas. Alors
bah,
donc,
voilà.
Je n'ai pas vu le soleil danser. Quoi.
Tu pourrais aller en altitude pour voir le soleil danser.
Mmh. Tu sais, c'est des germaniques aussi, les scandinaves.
Oui, ça y est. Oh, m'étonner qu'ils ne reviennent pas dessus. Les trolls et les sorcières se réveillent et on allume parfois de grands feux pour les éloigner. Parce que les trolls, ils sont amusants, mais de façon méchante. Ils viennent et puis ils te font plein de plaisanteries méchantes et puis ils rient beaucoup puis ils partent en courant. Alors pour les faire fuir...
Peut-être que c'est de là que vient ce mot troll qu'on utilise de nos jours sur les web pour ceux qui viennent... Les provocateurs.
Voilà, c'est des trolls.
Oh, voilà, les provocateurs.
Et les enfants qui se déguisent en sorcières et en mauvais génie, qui frappent aux portes, qui brandissent des rameaux et ils disent des formules magiques pour appeler la santé sur ta demeure à condition de recevoir des œufs en chocolat. Et c'est pas pour rien. Tu me donnes des œufs, je bénis ta maison.
C'est du troc.
Voilà.
Oh là.
C'était une partie de ce qui se passe ailleurs. Alors, merci à tous de m'avoir écouté.
Merci.
Et puis, j'espère que ça
merci.
Vous a donné le goût du chocolat. Alors, maintenant,
choses.
On part avec Olivia Ruiz, la femme chocolat.
Trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sincère, six nus pointus, zédo du deux, noisette craque, tu les manges. manger de chocolat.
Alors juste avant qu'on se délecte de sirop d'érable, je veux juste vous dire, vous parler d'un autre pays que dont je n'avais pas eu le temps de vous parler, c'est en Russie. En Russie, la fête de Pâques est la plus importante du calendrier et il y a plein de choses à manger. Mais ça, je veux vous parler d'une tradition par contre qui ne se retrouve nulle part ailleurs, qui consiste à se rendre sur la tombe de vos proches pour manger vos œufs durs. D'ailleurs, il faut laisser quelques œufs au cimetière pour apaiser l'esprit des morts. Et c'est qu'en Russie que ça se passe, il fallait quand même que je vous le raconte.
Oui, oui, c'est un grand pays quand même, ouais. Le pays le plus grand du monde.
Et maintenant, on parle aussi d'un autre grand pays et qui a sa valeur sur le sirop d'érable.
Le sirop d'érable. Oui, hein? Restez à l'écoute, on vous revient.
Bah oui, parce que ça va être bien, ça a été... qu'est-ce que je me suis régalé avec le sirop d'érable quand je suis arrivée ici. Allez, à tout de suite, restez avec nous, on revient
à l'écoute, oui.
Tout de suite après ça.
Pour parler de sirop d'érable, de Canada, Canada, cabane à sucre.
Ok.
Vous écoutez Regards croisés.
C'était le rêve du diable, sirop d'érable. Avant de donner la parole à Landis Lucier pour parler de la cabane à sucre familiale ancestrale, pour parler de sirop d'érable pur, cette histoire de sirop d'érable, son histoire, il y a tellement de légendes autochtones. Je pense bien que Laïs, il va nous brosser ça un peu avant de parler un peu de la cabane à sucre familiale. Bonjour Laïs.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Actuellement, vous êtes au four et au moulin, là.
Oui, 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 on est en train de bouillir l'eau d'érable.
Oh!
Ah, c'est... J'ai déjà vu ça, c'est formidable.
Je ne suis jamais allé dans une cabane.
Moi, j'ai vu comment ils le faisaient, le sirop d'érable, c'est formidable.
Alors là, vraiment, c'est... Voilà, commençons par l'histoire même du sirop d'érable avant d'attaquer un peu la cabane à sucre familiale, votre cabane à sucre familiale ancestrale. Ces histoires, comment on appelle ça? Durant des siècles, les gens ont raconté des histoires. Comment ça a été fait par les autochtones avant que les Européens qui sont arrivés ont contribué aussi au développement jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce que vos arrière-arrière grands-parents ont pu mettre sur pied quelque chose de ce genre.
Oui, c'est...
Les légendes, il y a des milliers de légendes selon les régions.
Oui, c'est ça, mais ce qu'on a tout le temps entendu dire, c'est que les Indiens faisaient juste, c'était très rudimentaire leur affaire. Mais eux autres, au début, c'était beaucoup plus du sucre d'érable qu'ils faisaient que du sirop.
Oui.
Ça se conservait mieux. Ils faisaient bouillir jusqu'à temps que ça devienne comme presque granuleux.
Oui.
Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fameux pains de sucre, là. Et puis, ils prenaient une hache, ils faisaient une entaille là, grossière sur l'arbre.
Oui.
Ça coulait. Ils mettaient une espèce de petite écorce de bouleau, là, qui est quasiment comme du papier.
Oui.
Ils faisaient couler ça dans des seaux. Ils ramenaient ça dans le gros chaudron de fonte. Ils faisaient couler ça sur le feu de bois. C'est sûr que ça faisait un sirop qui n'a pas tellement rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui.
Ah ben oui, c'est sûr.
Oui, non. Il doit y avoir une différence parce que vous avez d'autres matériaux qui sont d'autres styles qui sont ajoutés là-dessus. Les vraies casseroles venant d'Europe, d'ailleurs. Alors, on va parler un peu de la cabane à sucre familiale ancestrale. Depuis plus de 200 ans, votre famille est dans cette chose-là. Parlez-nous un peu de ça. Vous êtes la troisième génération, si je ne me trompe pas.
Troisième, ouais.
Oui.
La quatrième génération est en train de m'aider à bouillir. Là.
C'est Mercedes.
Oui, Mercedes.
Votre fille, oui.
Ça fait pas tout à fait 200 ans quand même, là, mais la cabane à sucre, mon père a 96 ans.
Puis,
ils ont acheté en 1935, qui fait à peu près, lui, il avait 10 ans.
Oui.
Puis, il dit la cabane à sucre est pareille comme il était il y a 85 ans. Fait que c'est vieux, c'est mon grand-père qui a acheté ça.
Oui.
C'est formidable.
On a continué la tradition. C'est sûr que moi, ça fait 42e récolte que je fais. C'est pas mal moi qui ai modernisé les opérations, disons.
OK.
La chaudière, les chevaux. J'ai quand même connu cette époque-là, mais je n'étais pas propriétaire.
Ah, d'accord.
OK.
Oui.
Ah, c'est intéressant.
Les chevaux pour récolter les chaudières accrochées aux arbres.
Oui.
Et puis, les récoltes étaient moins abondantes, c'est sûr, là, parce qu'avec les nouvelles technologies, la tubuleuse et tout ça, ça a amélioré les choses beaucoup.
Est-ce que quand vous étiez enfant, ça a été votre rêve de prendre la place de votre père un jour? Hein? Vous vous êtes dit un jour quand vous étiez enfant, quand papa ne pourra plus, moi je vais être là.
Ah oui. Ben, ça a été mieux que ça parce que j'ai travaillé avec mon père toute ma vie.
Oui.
J'ai acheté, j'avais 19 ans. Puis lui, il a continué, il était jeune. Il avait juste, je pense, 47, 48 ans quand il a vendu.
Mais bon, il n'avait plus envie ou bien il était fatigué? Il voulait passer à autre chose?
Non, il ne voulait pas passer à autre chose. Il a continué à travailler avec moi. Il voulait pas que je m'en aille ailleurs, dans le fond.
C'était une manière de...
Il voulait être sûr que vous restiez là?
C'est ça, j'avais fait une formation d'électricien, mais là...
Il a dit non, l'anglais ne va pas ailleurs, il va rester ici. À 19 ans déjà, il vous a laissé la place.
C'est ça.
Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que, bon, les goûts, c'est selon les régions ou bien c'est... Est-ce qu'on peut comparer ça au vin, selon la région, selon la température? Comment ça se passe même?
Un petit peu comme le vin, oui. Ça dépend de un peu de l'âge de la forêt.
Oui.
Il y a comme trois ou quatre facteurs importants.
Oui.
Il y a le terroir, là, l'âge de la forêt, là, les vieux arbres qui fait juste les petits jeunes arbres de 8-10 pouces de diamètre qu'on entaille. Et puis, le terroir. Ceux qui sont dans des terres un petit peu plus basses, un peu plus humides, vont avoir ce qu'on appelle l'érable rouge, en majorité.
Ah oui.
Et l'autre érable qui est meilleur, c'est la vraie érable à sucre. Ça, ça fait une sève qui est plus sucrée, un sirop qui goûte. Il va avoir un meilleur goût d'érable.
D'accord.
Selon plusieurs personnes. Je ne dis pas que ceux qui ont des érablières de moitié-moitié, érable rouge, érable à sucre, vont pas du bon sirop.
Vous ne dites pas que c'est pas bon, voilà.
Il y a des caractéristiques différentes. C'est
oui.
Sûr.
Oui.
Un peu comme le vin, là. Le terroir va faire ça. Et ensuite, la façon de faire.
Oui.
Il y en a qui vont hyper concentrer, qui vont bouillir ça extrêmement rapidement. Ça fait un bon sirop, mais qui n'a peut-être pas les saveurs que moi je peux développer ici avec ma petite opération. Ça me prend beaucoup plus de temps à obtenir le produit final. Le produit fini.
Oui.
Vous êtes situé où?
À Montérégie, à Franklin. Tout près des frontières américaines, Hemingford, le parc safari, je donne souvent ça comme exemple, les gens connaissent ça pas mal.
Mm-hmm.
À l'extrême sud-ouest du Québec.
On est
comme la première région à produire habituellement,
oui.
Et la première évidemment à arrêter, parce qu'on est plus au sud que les gens de la Gaspésie.
Vous commencez avant les autres, et puis vous arrêtez avant eux.
Non,
c'est la région de la Montérégie. C'est la région de la Montérégie Ouest.
Oui, Montérégie Ouest, c'est ça.
Montérégie Ouest.
Ça fonctionne avec la température. Hein?
Oui.
Il faut que ce soit en haut de zéro pour que ça coule. Puis à un moment donné, quand on a plus de gelée la nuit, c'est le début de la fin, ça coule plus.
D'accord.
Avant de poser la prochaine question, je vais vous poser avant, on va faire une petite pause musicale avant de revenir, mais vous préparez la réponse. Mais au fait, quand est-ce que vous commencez le matin et quand est-ce que vous arrêtez en fin de journée? Oh là.
C'est pas moi qui décide ça,
vous en reparlerez après la chanson. Mais
après la chanson,
on vous revient,
on va en musique avec Swinging Relatives, Attache ta tuque.
Brent!
So let me see if I understand. You want me to put on my cap and go to Sugar Shack?
C'est ça. Away! Swing la vaquaise dans le fond, la boîte à bois. Swing la vaquaise dans le fond, la boîte à bois. Swing la vaquaise dans le fond. Swing la catin dans le fond, la boîte à pain. Swing la grémate, il t'a qui est en contact. Swing la brunette, la roussette, la blondinette. Attache-tu qu'on s'en va cabane à jouer. Ah ouais!
Jamaïque, vaquaise dans le fond de la boîte à bois. Swing la vaquaise dans le fond de la boîte à bois. Swing la vaquaise dans le fond. Swing la cabane dans le fond de la boîte à pain. Swing la gréma, puis swing la fricama. Ou prenons ton temps, vas-y lentement, assurément, mais vas-y donc sur la mer de Rigaudon. On se retrouve une fois par année, c'est pas pour la nouvelle année, c'est plus souvent l'après-midi, rapport qu'au soir, il fait pas chaud. Même si on danse toute la journée, personne n'est vraiment fatigué. C'est parce que l'hiver est fini, que les jupettes sont arrivées. On s'invente un colleux et violoneux. On a tout le monde dans un pack à tout bain, tassé sur le parquet. On se souvient plus tellement comment j'y vais. Mais c'est pas grave, écoutez-moi, non, c'est lutté.
C'était Swinging Relatives, Attache Tatuc, notre invité Langis Lucier de Mercedes et Langis Lucier, cabane à sucre familiale ancestrale, est toujours avec nous. On voit que j'entends le bruit de la machine là-bas.
Oui, bien sûr. Expliquez-le à Fulgence, qu'est-ce qu'il faut faire dans toute une journée.
Alors, ma question que j'avais posée avant la pièce musicale, Langis se lève le matin à quelle heure et finit sa journée à quelle heure?
Il n'y a pas vraiment de journée typique.
Oui.
Surtout, comme je te disais, c'est la nature qui va décider ça. Mais habituellement, on essaie de finir d'évaporer la sève le soir. Disons que une journée typique, là, c'est moins 5 la nuit, plus 5 le jour. Alors là, ça se met à couler peut-être à 9 heures, 7 heures le matin, dépendamment de la chaleur de la journée.
Oui.
Et puis, après ça, là, on concentre la sève et une couple d'heures après, on peut commencer à évaporer. Et puis, habituellement, là, des journées d'évaporation là, de 8-10 heures, là, c'est à peu près le maximum que je vais faire. Là.
OK.
À moins d'une coulée exceptionnelle, là, la coulée qu'on aime tant, là, exceptionnelle,
oui.
Là, qu'on n'a pas le choix, il faut bouillir toute la nuit.
Ah oui.
Ben, on attache notre sucre avec de la broche comme
ça.
On bouille toute la nuit.
D'accord, d'accord. Alors, on va parler maintenant de production, de sirop d'érable et de pandémie.
Différent aussi. Sirop.
Voilà, nous sommes dans c'est la deuxième année de production avec la pandémie. L'année passée et cette année. Alors,
ils nous ont barré ça en plein pendant la saison.
Oh, voilà. Oui. Alors, comment est-ce que vous passée et cette année, comment est-ce que vous vous en sortez? Comment ça vous a affecté? Est-ce qu'il y a eu un impact?
Ça va, c'est bien. Moi, j'ai une érablière de 5000 en taille.
Oui.
C'est pas énorme. Je fais ça avec ma fille, ma conjointe et moi.
Oui.
Et puis, on a un ami ou deux qui viennent nous aider.
Oui.
Fait qu'on porte nos masques et puis on n'a pas vraiment de gros impacts comme les cabanes à sucre commerciales ou une grosse érablière qui va avoir besoin de, je sais pas moi, 7, 8, 10 employés pour faire la production. Là, c'est plus difficile, c'est comme un commerce, là.
Oui.
Mais, puis en plus, on est dans le bois pas mal, fait qu'on ne voit pas grand monde.
Je comprends, c'est vrai. Ouais.
À part les arbres, c'est le mieux.
C'est ça, les arbres ne peuvent pas nous donner la COVID.
Ouais. Et sur le côté vente, ça n'a pas affecté? Ou bien est-ce que vous avez vendu plus ou vous avez vendu moins? Est-ce qu'il y a eu moins de commandes à cause de la COVID ou bien comment ça s'est passé?
On vient pas le chercher, mais on le commande.
Oui, mais on a eu plus. Nous, on vend à des. On a deux manières de vendre.
Oui.
En fait, en industrie du sirop, il y a trois façons de vendre du sirop.
Oui.
Parce que pour produire et vendre à un magasin ou à une épicerie, ça prend un contingent.
Oui.
Du quota en bon québécois. Mm-hmm. Et puis, ce contingent-là est délivré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et maintenant qui s'appelle les PPAQ, producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Oui, c'est ça,
PPAQ.
PPAQ.
Et puis, les ventes directes aux consommateurs. Si Fulgence, tu viens acheter ton sirop pour toi-même ici à ma cabane à sucre,
oui.
Ça, j'ai pas besoin de contingent pour ça. Mais okay. Si je vais en GA, métro ou whatever, là, ça me prend mon contingent et puis je le vends en canette ou en bouteille. Et la troisième façon, c'est en vrac, en baril, qui est un peu, si on peut faire comme la comparaison avec le vin de tantôt.
Oui.
En fait, quand on l'envoie en vrac, il y a une dizaine de gros emballeurs de sirop au Québec. Et puis, eux autres vont faire comme des mélanges.
Ah.
C'est un peu comme un vin un peu générique, là, qui va provenir de 25, 30, 40 producteurs dans la vallée du Languedoc.
Oui.
Puis, comparé au vin de château, qui est un peu plus spécifique, qui a un goût de terroir un peu plus spécifique.
Oui.
C'est un petit peu ça, la différence.
OK.
Ça va être un sirop correct, mais sans peut-être le petit goût typique qu'on peut avoir. Comme moi, mon sirop a tout le temps un petit peu le même goût, pas durant toute la saison, mais année après année, parce que c'est les mêmes érables, c'est le même terroir, puis habituellement, la température est quand même correct, à moins d'une exception d'un hiver hyper froid et un printemps trop chaud. Là, des fois, c'est
oui.
moins bon, mais ça, c'est rare.
Mm-hmm.
Mm. Les ventes, pour en revenir à ta question de COVID,
oui.
Les ventes ont augmenté. Les gens sont restés chez eux, ils ont déjeuné chez
oui,
eux.
C'est sûr.
Ils ont mangé du sirop.
Wow.
Dans les épiceries et à la cabane, les ventes ont augmenté.
Tant mieux, alors.
Oh, ouais. D'ailleurs, dans toute l'industrie du sirop, les ventes ne cessent d'augmenter à tous les ans là, de presque 10% par année.
Qu'est-ce que c'est qui est le plus vendu? Est-ce que c'est le plus foncé, le plus épais ou celui qui est mis?
Ça dépend des goûts, mais le gros de la production, c'est ce qu'on appelle la catégorie du milieu, là, le ambré. Gouriche. C'est un sirop qui n'est pas trop pâle. Là. Il y a quatre classes de sirop. Le doré, goût délicat. Ça va goûter un petit peu vanille. Un petit goût très délicat. Après ça, le ambré gouriche, c'est vraiment la production la plus grosse du Québec.
Oui.
Et à mon goût, à moi, c'est le meilleur, mais les goûts ne sont pas discutés.
C'est celui que j'achète aussi.
le ambré gouriche?
Oui.
Ouais, oui, c'est ça. Il y a un bon goût d'érable, habituellement.
Oui.
Après ça, il y a le foncé goût robuste. Lui, il va être un petit peu plus caramel, confiserie, cuisson. Ça va souvent arriver un petit peu plus tard dans la saison, quand la sève, le sucre est différent un petit peu dans la sève. Et puis après ça, il y a vraiment le sirop de fin de saison ou ultra-cuit, qui est le très foncé, là, qui est... Certains consommateurs aiment ça, mais la plupart du temps, c'est pour faire des
c'est pour faire la tire?
Oui, bien, la tire, ça dépend. La tire, elle va goûter le sirop que tu fais avec.
D'accord.
Habituellement, on peut prendre un sirop un petit peu plus foncé que le beurre d'érable, disons.
Oui.
Le beurre d'érable, habituellement, les gens aiment avoir un sirop ambré. Ou un petit peu plus fort.
Okay.
Merci.
S'il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui ne sont pas de votre famille qui disent, bon tiens, ok, on est tombé sur votre cabane à sucre familiale ancestrale sur érable-d'ici.ca, on aimerait bien visiter, nous sommes au nombre de 10 personnes pour une fin de semaine, est-ce que c'est oui ou non? Parce que bon, vous n'êtes pas, vous avez de la place pour les recevoir ou bien comment ça se passe?
Tu veux dire recevoir pour vendre le sirop?
Vendre et oui, passer une fin de semaine ou bien un après-midi.
Il y a souvent des clients qui viennent et c'est un peu comme ce que je viens de vous dire. Là, je vous explique un peu comment ça fonctionne.
Oui,
et,
hein?
C'est sûr que s'il arrive dans un moment où je suis très occupé, je peux être un petit peu moins poli.
Je peux comprendre.
Il faut ce qu'il faut, mais... Non, il n'y a pas de problème. Là.
Ben, c'est cool.
Érable d'ici, ça a été mis au monde par les PPAQ. Ça, là.
Ah, c'est PPAQ qui a créé, voilà. Érable d'ici, .ca, c'est là-bas qu'on trouve tous les
cabanes à sucre qui vendent au détail. Parce que c'est pas toutes les cabanes à sucre qui vendent directement aux consommateurs.
Ah,
il y en a des gros producteurs qui ne veulent pas se préoccuper de ça.
Oui.
Seulement du vrac, seulement des barils.
Oui, c'est vrai.
Oui. J'ai trouvé aussi sur achetezquebec.ca produits érable, miel, vous êtes là-bas aussi, j'ai trouvé ça là-bas. Mercedes, Linguis, Lucie, ça c'est clair. C'est vraiment, c'est, je me suis dit la dernière fois, il va falloir au moins une fois de ma vie.
Il faut que tu y ailles parce que c'est absolument super. C'est un merveilleux moment à passer que d'aller dans une érablière.
Ma collègue Arlette est déjà...
J'adore
pas... Oui, ça, sincèrement, elle a aimé son expérience qu'elle a vécue dans une cabane à sucre. Moi, je ne l'ai jamais... Il faut que je le fasse d'ailleurs et puis...
Plusieurs fois, c'était quand on pouvait sortir.
Ah, ouais, c'est ça.
Voilà, c'est maintenant, il y a la... Maintenant, il y a la pandémie. Ouais, avec la pandémie, là, vraiment. Vous n'êtes pas en zone rouge, là? Non.
Oui, oui, on est à Montérégie. Malheureusement, on n'a pas des cas aussi importants que Montréal. On en a quelques-uns.
Mais
c'est pas... on pourrait être considéré comme en zone orange.
OK.
Quand même, ouais. Le couvre-feu de la zone rouge. Là.
C'est ça. Un dernier mot à nos auditeurs avant de vous quitter, Langis. Un dernier mot rapidement.
Ben, apprenez, achetez.
Ah, ben oui, ben, Fulgence, je pense qu'on a un ami en commun.
Oui, Céline.
Céline?
Oui, oui.
Si tu veux venir faire ton tour dans la cabane à sucre, t'as juste à demander à Céline que t'accompagne, et puis tu vas être le bienvenu, là.
Oh là! Merci beaucoup.
Là, je pourrais faire un super bon topo.
Oh, merci beaucoup.
Il faut qu'il fasse son expérience.
Merci.
Merci
beaucoup.
À vous.
Voilà, et puis bon, bonne période, bonne saison d'érable.
À bientôt.
De sirop.
Merci.
Au revoir.
Merci. Ça devrait être bon cette année.
À bientôt.
Le sirop est bon. Le sirop est bon.
Merci. Au revoir.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir.
On a les oreilles au vent, les mains gelées rouges, dans nos orteils y'a plus de sang. Il faut qu'on bouge. La tempête fait pas attention à nos petits corps, je te dis qu'on en avait de l'ambition. Sortir dehors. Personnellement, j'étais plus capable de voir assis à l'autre bout de la table devant le château de cartes que j'ai soufflé pour te réveiller. On va changer d'air pour vrai, mon petit cœur, t'es mieux de te tenir prêt. J'suis pas faite en chocolat, on n'est pas faite en chocolat. Y'a des hivers qui sont longs, pis d'autres qui filent, disons que je fais le mauvais coton. Laisse-moi tranquille. Personnellement, j'étais plus capable de te voir assis à l'autre bout de la table devant le château de cartes que j'ai soufflé pour te réveiller. On va changer d'air pour vrai, mon petit cœur, t'es mieux de te tenir prêt. J'suis pas faite en chocolat, on n'est pas faite en chocolat.
Penses-tu qu'on va passer à travers le temps qui festival?
Penses-tu qu'on va passer à travers le temps qui festival?
Penses-tu qu'on va passer à travers le temps qui
Festival. Voilà, c'était Tricot Machine, pas fait en chocolat.
Alors là, un excellent week-end à vous toutes et à vous tous pour Pâques, ouais. Et puis belle fête de Pâques, du chocolat, du sirop d'érable, enfin bref, profitez-en.
Vous avez entendu, malgré
n'ayez pas peur d'être
la
malade.
Pandémie, ça se vend très bien. Ouais. Et Lenny de Pâques.
Merci
on
à lui d'avoir
ici,
été là.
Moi.
Oui, on se retrouve lundi, nous, et vous nous entendrez de nouveau. Peut-être qu'on aura été malade de chocolat. Allez, au revoir à tous.
Okay, du sirop d'érable.
Bon week-end de Pâques.
Prenez soin de vous.